Et on commence ce journal, Natacha, avec la mission Capstone de la NASA qui a une nouvelle date de lancement.
Cette mission, c'est la première étape du programme Artemis de la NASA, le grand retour de l'être humain sur la Lune. Alors, dans le cadre de ce programme, la NASA prévoit la construction d'une station lunaire habitée, en orbite, le Lunar Gateway, qui doit servir de point relais à partir duquel on pourra se rendre à la surface ou rester en orbite. C'est très différent du programme Apollo des années 60. Là, on assiste à la mise en place d'une occupation sur le long terme. La difficulté dans cet espace cislunaire, c'est de trouver une orbite adéquate. Il faut être sûr qu'il s'agisse d'une orbite stable. Donc la mission Capstone, c'est une mission de repérage à moindre coût. Il s'agit d'un petit satellite, de la taille d'un four, qui sera lancé par une fusée produite par Rocket Lab, une entreprise du New Space. Après de nombreux reports, le lancement devait avoir lieu aujourd'hui. Il est finalement prévu entre le 13 et le 22 juin. Xavier Pascoe est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des questions spatiales.
Cette orbite, elle a la particularité d'avoir toujours la Terre en visibilité. Alors elle est très excentrique, c'est une orbite qui passe à un peu plus de 1000 km au périgée, un peu plus de 1000 km au-dessus de la surface de la Lune et à près de 70 000 km, je crois, à l'apogée. On n'a jamais vraiment fait ça autour de la Lune. On a des sondes qui orbitent, mais dans la perspective d'occuper la Lune, de créer un peu ce relais logistique, il faut vraiment avoir une sorte d'expérimentation qui permettent de tester certaines orbites, bon, d'autant qu'on est dans une configuration un peu particulière pour l'orbite lunaire. Donc voilà, c'est un peu une répétition générale. Et puis ensuite, on va tester à la fois la pérennité de l'orbite, on va tester la capacité de ce satellite à être tout le temps en visibilité de la Terre aussi, pour qu'il y ait plus une communication qui soit possible. Et puis on va tester aussi une capacité à avoir une navigation très précise, une localisation très précise du satellite en utilisant un autre satellite qui est autour de la Lune, qui s'appelle Lunar Reconnaissance Orbiter. Voilà, donc on teste tout un tas de choses qui en fait, a priori, l'objectif de préparer une forme d'autonomie de toute cette logistique lunaire, finalement. La difficulté, c'est de trouver la bonne orbite pour la station spatiale, qui sera donc la fameuse Lunar Gateway, qui sera mise en orbite autour de la Lune, parce que il y a un problème un physique un peu particulier, qu'on appelle le problème des trois corps, que les astrophysiciens, les spécialistes de mécanique spatiale connaissent bien, qui est de trouver finalement le bon équilibre entre, on va dire, une orbite autour de la Lune qui est elle-même influencée par son orbite autour de la Terre et par la relation gravitationnelle avec la Terre. Donc tout ça, aujourd'hui, avec le satellite lui-même, crée une combinaison de contraintes qui fait que mathématiquement, c'est très compliqué de bien identifier la solution pour que on ait au bout du compte une orbite qui soit stable. Donc ça, c'est vraiment la mission première, c'est quand même de tester un peu une solution orbitale, un peu originale, et qui a été trouvée par la NASA, qui s'y est mise depuis quelques années. Il y avait vraiment, au sein de la NASA, donc des gens qui réfléchissaient à la meilleure orbite, et donc là, on va vraiment la tester. C'est une vraie mission, j'allais dire, scientifique, en fait. Au-delà du programme lunaire lui-même, c'est une mission de vérification des modèles théoriques.
Voilà, et pour tout savoir sur ce vaisseau Capstone, eh bien, comme d'habitude, on vous poste des liens vers les études sur notre fil Twitter, @lamethodefc, et liens que vous pourrez retrouver sur le site de l'émission à la page du jour sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Viruses, un nouveau coronavirus, chouette, a été identifié chez les rongeurs.
Entre 2015 et 2017, des virologues suédois ont analysé 450 campagnols roussâtres, une des espèces de rongeurs les plus répandues en Europe. Ils ont identifié un nouveau bêta-coronavirus, qui a été baptisé le virus Grimso. 3,4% des rongeurs de cette cohorte en étaient porteurs, ce qui suggère que ce virus est répandu chez les campagnols roussâtres et que cette espèce est un réservoir viral. Alors il n'y a pas eu de saut d'espèce, aucun humain n'a contracté le virus et on sait peu de choses de sa virulence. Néanmoins, selon les auteurs, il est important de continuer à surveiller ce coronavirus parmi les rongeurs sauvages.
Une étude parue dans la revue Science Robotics décrit la création d'une e-skin, une peau électronique d'un nouveau type.
Oui, une peau électronique capable d'apprendre et de, entre guillemets, ressentir la douleur. Alors pour imiter l'organe le plus grand du corps humain, ces roboticiens britanniques se sont inspirés du système nerveux périphérique. Ils ont développé une grille de 168 transistors synaptiques, fabriqués à partir de nanofils d'oxyde de zinc, étalés sur une une surface flexible qui a été montée sur une main artificielle, elle aussi équipée de capteurs cutanés. De cette façon, l'e-skin a été capable de faire la différence entre un toucher léger et un toucher lourd. Grâce à l'apprentissage associatif, cette peau pourrait progressivement acquérir un réflexe de douleur semblable au nôtre. Selon les auteurs, ces travaux seraient une percée pour la robotique tactile et pourraient être une base pour perfectionner les prothèses.
Et pour finir, grâce à une étude publiée dans la revue Molecular Biology and Evolution, nous savons enfin comment les termites ont envahi le monde.
Oui, leur conquête du monde a commencé par la mer. Une équipe japonaise s'est intéressée à l'histoire évolutive des termites de bois sec, la deuxième plus grande famille de termites que l'on trouve un peu partout sur la planète, dans les régions tropicales et subtropicales. Les chercheurs ont ainsi séquencé l'ADN de 120 espèces différentes qu'ils ont comparées avec les analyses de termites fossilisées. Il se trouve que ces insectes ont traversé les océans au moins 40 fois au cours des 50 derniers millions d'années. Après un voyage en mer, à bord d'une branche de bois flotté dans lesquelles elles peuvent nidifier, c'est une fois arrivées sur un nouveau continent qu'elles se sont ensuite diversifiées en de nouvelles espèces.